Chapitre deuxième. Dès le lendemain, je vis Selten au courant du mystère de la Frankfurter, qui s'était d'ailleurs épaissi depuis la veille. Le numéro du matin m'avait apporté, intercalé dans un article de SVK sur la réforme du code maritime allemand, une série de phrases qui prétendaient s'appliquer à Sassnitz et qui provenaient d'une description de Vimoreux, dont cette fois j'étais l'auteur. De même que les parents s'extasient sur les navires et le mouvement du port, mais que les enfants, dédaignant ce spectacle, rêvent d'apercevoir par le trou de la serrure le bateau de sauvetage et la siège sous son hangar. Ou bien, les barques glissent, le sable amortit le bruit des pas, tous les bruits du monde sont relégués, car les sabots du dernier promeneur de droite seuls résonnent sur la dalle du quai, aux bords extrêmes de la terre et des flots. J'avais publié ces nouveautés considérables avec l'épigraphe dont Forestier m'avait fait compliment et que SVK ne manquait pas de reprendre. Et ça voit à dire les bienfaits du soir. Zelten ne parut pas le moins du monde surpris de l'aventure. « On m'a parlé de SVK, me dit-il. Oh, c'est ce que nous appelons chez nous un juriste poétique. Il vit à l'écart et se consacre, paraît-il, à une critique de la constitution de Weimar. Il est hors de doute qu'il agit de bonne foi. Ben, puisque je pars dans 2 jours pour Munich, où il habite, tu auras la semaine prochaine tous les renseignements. Mais que vois-tu de si extraordinaire dans cette copie à distance ? Zelten, depuis mon arrivée à la rotonde, m'avait installé à la terrasse, malgré le gel, et avait déjà changé 3 fois de place. De chaque table, il plongeait ses regards dans les ténèbres, cherchait et déménageait à nouveau. Enfin, ses yeux brillèrent, il s'assit tout joyeux, et comme on dit dans les romans réalistes, il fallut que ce fût un picon grenadine. « Cher Jean, dit-il, j'ai aujourd'hui pas mal de confidences à te faire. » « Elles te surprendront, elles ne ressemblent guère à celles que tu aurais entendues voilà 7 ans. Mais nous avons été séparés, juste par les années où nous étions appelés à nous rendre compte du monde et de son mouvement. Et je doute que Newton, Archimède et Copernic se soient confiés de même façon à leurs amis avant et après leur découverte. Ce n'est pas en voyant tomber des pommes, mais des Allemands, et un pauvre gros que je vois encore qui rebondit, que j'ai pris conscience des forces qui m'emportaient et qui emportaient l'Allemagne. Puisque ton affaire SVK te tourmente, je crois qu'il est possible de t'en donner une explication sans recourir à cette hypothèse de notre mauvaise foi dont nos astronomes se servent pour expliquer le mauvais temps et vos ménagères le prix délicat de la langouste. À ce propos, je t'avoue que jamais je n'ai éprouvé autant de surprise à voir la France. Cette révélation du règne en France de la petite propriété qui laisse les banquiers américains sans voix aux fenêtres de l'express de Cherbourg, je la ressens devant les âmes des Français. Chacun a la sienne et conduit des disputes de murs mitoyens avec les âmes voisines. Chacun sa loyauté, son mensonge, sa mort à soi. Toutes les machines modernes à ensemencer ou à moissonner les peuples sont chez vous inutilisables. Jamais nation n'a eu moins de risques de disparaître que la tienne, avec ses 40 millions de lois étanches, et il faut bien avouer qu'aucune jamais ne l'égalera en sagesse et en équilibre, puisque chacun de vous, atrocement isolés des autres, arrivent d'instinct aux mêmes conclusions, qui sont l'amour de la paix, du bien-être et d'une éternité mitigée. De là vient que toutes les familles étrangères adorent avoir, comme un pot de fleurs à leur fenêtre, un ami français, plus sûr qu'un géranium. Mais débarquer d'un pays où l'âme ne fut jamais morcelée, ni le mensonge, ni le vice, ni la mort, je vous découvre chacun avec votre canon prêt à par grêle pour détourner jusqu'à l'aube d'un nuage nouveau, privé de tous les sens. Un visage français est un masque contre tous ces fluides qui inondent l'univers. Et plus ils sont nocifs, comme aujourd'hui, et abîment des peuples entiers, plus votre sourire et votre teint intérieur fleurissent. Mais le système a ses inconvénients. Dès que les lois morales du monde ne se développent plus parallèlement aux germes qu'on enferme en chacun de vous à sa naissance, vous n'en êtes plus averti, et comme un pêcheur après un long sommeil et qui retrouve les raies longues de 20 mètres et les requins gros comme des maquereaux, quand vous décidez à sortir de votre monde pour les guerres rhénanes ou le congrès de parasitologie, vous retrouvez les âmes des autres peuples, composées d'éléments différents de la vôtre et d'une échelle différente. Vous vous êtes étonné, le 1er août 1914, de découvrir sur la France un réseau d'espions, d'apprendre que le maire du canton d'Albert de Main avait nommé secrétaire de mobilisation un nommé Durand, qui était un nommé Sarsen, et que dans l'appartement contigu au logis de Maurras habitait un autre Durand, qui était le colonel Schlen. Cela prouve que la présence d'aucun académicien ni d'aucun grand esprit français n'exerce la moindre garde contre ce que l'univers recèle. Sous le nom même de Durand, voile bien léger, recèle de forces secrètes ou non raisonnables, tandis qu'ils reconnaissent comme un humble passant qui pense par syllogisme. Et c'est ce que l'on peut dire des membres de votre académie berlinoise, du père Hoffmann ou du comte Clémence, qui devina à 30 lignes lieu une jeune fille en léthargie, ou de nos jours du brave Lilienkron, notre François Copé à peu près, qui tombait en transe chaque fois qu'un assassin de souverain. On a vérifié pour Carnot à Lyon, Elisabeth à Genève, Humbert à Rome, passer l'octroi de la ville où il devait tuer. Ici, Zelten changea de table et chercha dans les ténèbres. « Le réseau d'espions, reprit-il, n'est d'ailleurs que le plus lamentable et le plus visible de ces filets secrets. À cette terrasse, je puis te désigner sur le champ, celle des petites femmes qui ont mission d'atteindre au besoin par des intermédiaires de toutes les races et par un tour du monde. Un adjudant colonial de mitrailleuse assis à la table d'en face, et ceux des maîtres d'hôtel chargés de les surveiller. Le fait qu'un seul chef de bureau français, à l'aide de 3 dossiers, d'un apéritif et d'un petit arrosoir, pour apaiser l'été de la poussière de son parquet, arriva à contrebattre le travail de notre plus grand espion. Je parle de ce Schurman, qui, devant la foule et les temples hindous, se sentit soudain la vocation de l'espionnage, y était donc poussé par l'admiration du grouillement humain, te prouve qu'il s'agit là d'un art bien matériel et grossier. Mais, jeté sur ces 200 étrangers qui nous entourent, je soupçonne des raies autrement subtiles. Je vois ici 12 ou 15 membres de la secte dont les adeptes, avant les actes de l'amour, prononce une suite de paroles rituelles que moi-même j'ai jamais pu savoir et qu'aucune femme n'a trahi. Je vois 3 représentants de la secte de ton ami Batetipoulos, le beau grec que les femmes aiment un peu moins maintenant parce qu'il leur fait des jumeaux et auxquels elles n'accordent plus ce qu'on accorde à 2 personnes à la fois. Barletipoulos a été sacré à Göteborg, la ville d'industrie de la Suède, une nuit où tous les mineurs étaient montés à cet effet sur les toits proches des constellations, président d'une secte de lunaires, ce nom de stellaires, comme on l'a prétendu, dont les vice-présidents n'étaient autres que le prince Oscar et l'héritier Nobel. Il est astreint à un protocole impérieux qui règle ses gestes d'heure en heure. Il est astreint à un protocole impérieux qui règle ses gestes d'heure en heure. Tu l'as vu 2 ans de suite chaque jour, tu l'as vu par le soleil et par la lune, et jamais, Français, tu n'as rien soupçonné. Ces 2 Américains, nos voisins, je te les dénonce tout haut car ils ne savent pas le français, et d'ailleurs, entre membres d'une association secrète, ce qui est le plus inutile, c'est de se comprendre quand on parle. Récolte de l'or par tous les moyens défendus pour que la directrice de la Christian Science d'Europe paie en or, règle absolue, ses dépenses personnelles. Quant à l'enfant blond qui lit le New York Herald, le New York Herald est avec le Gaulois, le bréviaire de tous les administrateurs de sectes, à cause de la rubrique des déplacements mondains. On y voit tous les mariages des adeptes, et quand le premier lunaire a gagné au polo ou au billard, ou qu'un petit ami de Hulenburg a un fils, il reçoit le lendemain 20 bouquets et 20 télégrammes. C'est l'auteur d'un guide en Europe que j'ai pu entrouvrir une seconde à la page qui commençait ainsi. De toutes les villes du continent, c'est Berlin qui compte le plus grand nombre d'anthropophages. Ne souris pas. Si tu retournes en Allemagne, ces indications te seront aussi nécessaires qu'elles le seraient à Kim s'il y portait ses pas. À partir de 200 âmes par kilomètre carré, dit encore l'enfant blond dans son guide. Mais te rappelles-tu, Magdalena? Magdalena était un nègre du Cameroun qui avait servi quelques jours à la rotonde dans un incomparable abrutissement et qui avait disparu un soir entre le rôti et les desserts sans apporter notre Beaujolais et pour jamais, comme ce prince hongrois qui donnait à dîner, qui sortit sous le prétexte de surveiller le caviar et qu'on ne revit plus, si ce n'est à Londres, à Dieppe et à Lemnos. Toi, tu as vu dans Magena une merveille d'idiotie, congédiée par le patron. En fait, il a été enlevé par un groupe d'Allemands et habite aujourd'hui Berlin. Tu te souviens peut-être qu'à cette époque régnait dans la rotonde une agitation, un frémissement, que tu t'expliquais par la présence de Courteline qui venait y faire son piquet. Mais c'était Magena la cause de passion. Ainsi, en effet, neuf à la Nouvelle-Athènes, Magena avait été ramené du Congo par un Suisse, nommé d'ailleurs avec franchise Schweitzer, qu'il avait tiré de la prison où il attendait la mort en sa qualité d'homme-tigre. C'était le chef de la marmite d'Ibamba, c'est-à-dire celui qui procédait aux sacrifices humains d'initiation du district. Peu ne te dirait pas qui l'avait tué ou mangé, les victimes devant être des parents de plus en plus rapprochés du chef, et c'est venu d'ailleurs de lui conférer, entre Gabon et Oubangui, nulle originalité. Mais il était le dépositaire de pas mal de secrets hypnotiques, et son regard était la plus belle déformation de la lumière et de la pensée qu'on ait vue à Berlin depuis Linley. Je lui ai rendu récemment visite dans le taudis de Rumselburg, où ces séquestres le font déjeuner ou le gavent selon l'intensité qu'ils veulent donner à leur phare. Et toi, Français modèle, pendant que la ruche était en révolution sous la présence du fétiche, tu attribuais bruits et rumeurs au fait que Courteline venait de faire un grand chelem à sans atout, sans avoir d'as. Il s'interrompit. Je vis, au fond de la nuit, l'étoile qu'il avait cherchée avec tant d'impatience. Elle se levait, de moyenne grandeur, mais taillée. Il rougit de joie que j'ai découvert en flirt avec une aussi belle amie. Oh, c'est Bellina III, dit-il. On la voit surtout de Reykjavik, de Nielsen, surtout, l'on arrive par un petit tramway tiré par des poneys gris. Un être roux, haut de 6 pieds, s'était levé et masquait l'étoile. Zelten le repoussa avec colère. Le géant s'excusa. C'était d'habitude un personnage irascible, qui insultait les enfants et vidait sa bière dans le violon de la soliste. Il alla se rasseoir tout au bout de sa jante au juste s'il avait caché Zerlina 2, Müller 34 ou Vandenberg 2000, mais tout honteux. Revenons à ton histoire, SVK, reprit Svelten, qui lut du moins dans l'étoile un de mes désirs. Tu sais qu'à l'université de Berlin, en ce moment même, le docteur Knoschmidt professe que pas mal de génies ont été guidés à distance par des amis connus ou inconnus qui usaient de leur supériorité hypnotique pour leur imposer, à leur insu, une inspiration. Il va un peu plus loin, il explique ainsi, sans parler de l'affaire Shakespeare, toutes les contaminations et les plagiats. En tout cas, le bonhomme qui projeta ainsi sur Corneille les Romancero, sur Molière, Don Juan et Tristan sur Wagner, n'avait pas perdu son temps, et il est à souhaiter que les lumières des douaniers, à chaque frontière, soient remplacées par un homme projecteur de cet ordre. Mais, sans aller si loin, et pour t'éviter de me regarder avec pitié, apprends que c'est moi seul, qui t'ai inspiré cet épigraphe sur les bienfaits du soir, que tu accuses SVK de t'avoir emprunté. Qui te dit que tu n'es pas toi-même, inconsciemment, le correspondant de SVK, en ce qui concerne du moins l'élément liquide, car pour la terre, l'air et le feu, ils semblent se passer de nous. Zelten dit, sois sérieux. L'action française exigera une explication plus claire. Il daigna quitter des yeux l'étoile, bien qu'elle fût déjà à son déclin, bien que commençât le crépuscule de cette journée passionnée, mais longue, hélas, de 10 minutes. Il le regarda de ses yeux parfois un peu troubles, et auxquels, car je n'y voyais aucun tatouage, je n'avais même pas les raisons de me fier qu'à son bras gauche. « Tu me diras, comme le prétendait M. Prudhomme et comme l'a dû l'affirmer M. Brunetière, que le plus grand mystère de l'univers est encore la clarté de l'esprit français. Tous les syllogismes et les démonstrations qui ratent dans le reste de l'Europe continuent à éclater en France par des pétarades. Les déviations constatées à Potsdam sur la trajectoire de Newton 16 sont immédiatement corrigées à Paris. » Mais ce que l'on comprend mal chez toi, c'est que ces conventions concluent avec la logique, la simplicité, l'acceptation de la mort, moyennant certaines clauses somptuaires, si tu veux, avec la justice. Vous êtes les seuls au monde, comme pour les autres traités d'ailleurs, non seulement les respecter, mais en saisir le caractère nécessaire. Archange de la table de multiplication, trône du juste état civil, séraphin du froment et de la vie indigène, vos 600 députés assaillent dans leurs 600 circonscriptions le malheureux qui tente par la cocaïne ou l'aveu des cubistes de trouer son masque de français. Vous y gagnez d'être un pays tapisserie où le minimum de conscience commence à ce qui est le bonheur pour d'autres nations, et qu'on doit avoir plaisir à observer d'une autre étoile. Mais ne vois-tu pas, toi du moins que je croyais poète, que les esprits se reproduisent en France moins rapidement encore que les Français, et la chauve-souris Roussette, seul animal cabalistique que vous ayez conservé dès 2000 de votre Moyen-Âge, ne peut remplacer à elle seule les incubes et les succubes. Aussi la France est devenue une institution à peu près purement humaine, et les forces poétiques et diaboliques en sont de plus en plus bannies à notre bénéfice. Vous avez d'innombrables forêts, mais à minuit, en pleine horreur nocturne, elles agissent moins sur l'âme primitive qu'une sapinière de Berlin à midi. Vous avez des fleuves et rivières qui se repeuplent, paraît-il, en écrevisses, et en mirandelle, mais cette hégémonie et cette hypocrisie de l'élément liquide, dont le moindre ruisseau allemand témoigne autant que le Mekong, on peut l'y chercher en vain. Et tu peux être assuré que le Rhin de Bâle à Karlsruhe ne va pas plus rouler aussi que de l'eau filtrée, loyale et insipide. Mais il en a toujours été ainsi, Zelten, en France. Erreur, triple erreur. Quand Swedenborg mourut, c'est à la France qu'il remit la direction des forces spirituelles de la planète, un certain Le Bois des Guets, un des inventeurs aussi du puits d'Artésien, qui pendant 50 ans entretint de pression démographie Ioniaque le monde, et en particulier l'État de Michigan, pour lequel il nourrissait une prédilection que l'étude des textes ne m'a pas permis d'expliquer. Je t'avoue que, dans le désir de trouver en France un district où le bon sens eût plus de 3 dimensions, je suis allé autrefois rendre visite au grand maître, son successeur direct, qui habitait l'hôtel Le Roi des Guets lui-même à Saint-Amand-Montrond, en Berry. J'y arrivais plein d'espoir, car les renseignements pris sur la ville et sur Maître Rollet me laissaient penser que je trouverais dans Saint-Amand autre chose que ce mélange de nain jaune, de soucis testamentaires et de valse de Faust qu'on appelle une atmosphère bien française. C'est sur le Montrond qu'étaient brûlées les sorcières. C'est au centre de la ville, en l'endroit nommé Eldorado, que conflue la rivière la plus froide de France, la Marmande, et la plus chaude, le Cher, le confluent, si tu veux, du diable et de Vénus. Et du jour où j'eus décidé de m'y rendre, il ne passa point de semaine où je ne constatais, d'après les journaux, que Saint-Amand n'avait pas été choisi à la légère par Le Bois des Guets. En un mois, j'eus le crime du marquis de Nèves, le cimetière hanté et l'affaire toujours énigmatique des canards décapités. Ville sans grands hommes et sans statues. Excellente précaution, car les esprits détestent une concurrence trop précise. Cet avantage a d'ailleurs disparu, car c'est aux environs de Saint-Amand que Carpentier vient maintenant se mettre au vert. Ville qui marque juste le centre de la France, ou plutôt qui le marque à nouveau, depuis que tu m'as repris l'Alsace, où les fêtes druidiques se sont muées sans transition en romaine, puis en française, et les menhirs en sarcophage, puis en borne militaire. Sur chaque borne kilométrique, une rigole pour le sang, avec ses richesses et lacs noirs de l'abbaye de Noirlac, sa forêt de chênes verts de Vertes-Chenay, le tout dominé par un système de tours ridicules bâti après la guerre de Crimée et appelé les tours de Malakoff. La même ville en Allemagne aurait créé 3 Hoffmann et 5 Arnim. Mais quand j'entrais chez Maître Rollet, ma dernière illusion mourut. Un tennis, comme à l'ambassade d'Angleterre, dans le jardin des fleurs piquées, comme à la légation de Hollande, c'est-à-dire suivant le dessin le moins extraterrestre, et un pavillon chinois avec des porcelaines neuves, comme à celle de Chine. À l'intérieur, le premier phonographe qu'il y ait à Saint-Amand, la première bouilloire électrique, la première voiturette bollée, la légation des États-Unis. Oh, je revins à Paris le soir même. L'étoile était couchée. À demi attendu, Zelten se tut et semblait un fumeur d'opium qui attend sa seconde pipe. Mais l'étoile polaire elle-même ne pouvait plus fournir ce soir d'aliments à ses yeux. Il se détourna du ciel dépeuplé et remit au lendemain ses confidences, car, à ce qu'il me dit, le 3e sous-brigadier de la 8e escouade de contre-espionnage venait d'être désigné par le gérant pour verser nos consommations. Nous y gagnâmes d'être servis copieusement et le sous-brigadier d'entendre une discussion aussi vive qu'impromptue sur l'influence aryenne dans les mouvements mexicains. « Tu as dû apprendre, me dit cependant Zelten, qui me raccompagnait chez moi, que je suis divorcé. Mais je continue à voir Geneviève. Elle te portera mes lettres pendant mon absence, car je pars pour une grande entreprise et j'ai l'impression que SVK ne va pas tarder à nous être moins étrangers. Ah, tu pars pour l'Allemagne. Il vaut mieux ne rien dire. Je pars pour Munich. Je pars à cause d'une phrase qui m'obsède. Cette phrase, c'est tout ce que je sais encore de mes projets. Je me suis acheminé vers tous les actes importants de ma vie et entraîné à eux Tout simplement en me répétant une année, 6 mois à l'avance, la même formule, venue d'ailleurs par hasard à mon esprit. Mais l'habitude de la répétition finissait par me rendre anodin et inévitable l'acte qu'elle figurait. Je ne redoutais rien plus, enfant, que désobéir à mon grand-père, mais si je me répétais 3 fois de suite, j'ai dit zut à mon grand-père, j'arrivais inéluctablement et sans remords à ce méfait. L'acte n'était plus que ma confession, l'acte m'absolvait. Ainsi, dans mon existence, j'ai prononcé 6 mois innocemment la phrase « J'ai trompé ma femme ». Puis 6 autres mois, j'ai dit « Je trompe ma femme avec ma belle-sœur ». Et ces phrases endormaient en moi tout sursaut et tout jugement. 20 formules ont habité ainsi ma pensée et ma gorge, dont je n'ai pas à te dire si ce sont ou non réalisées. J'ai tué mon capitaine, j'ai crevé la ronde de nuit, j'ai coupé de force la barbe et une moustache de Sunderman, j'ai donné le quart de ma fortune aux petites sœurs de Castle. Sache seulement que la phrase que je porte en ce moment est la suivante. Je veux mourir pour la vraie Allemagne. Bon, rassure-toi, il faut d'abord la trouver. Mais nous étions presque à ma rue. J'entendais déjà l'ébranlement que cause à ma maison tous les soirs à minuit un locataire auquel la concierge ne tient pas à ouvrir et qui secoue comme Samson mais en criant le double portail. Était-ce à moi ce soir-là à dire les bienfaits du soir? Je me trouvais avec Geneviève Pratt qui avait à me remettre une lettre de Zelten sur le pont de la péniche du maréchal Joffre, achetée par le club des Cent, convertie en restaurant et amarrée par des ancres au sol de la Concorde. Des bandes de Saint-Cyriens y dînaient, c'était le Borda des maréchaux. Le service était fait par 3 stewards, anglais, français et suédois, qui tous 3 avaient été maîtres d'hôtel sur de vrais navires, et que reconnaissait parfois un ancien passager du Tokiamaru, du Celtic ou du Calédonien. Geneviève m'avait suivi avec bonheur sur la péniche, car elle détestait tout ce qui est en fer et adorait tout ce qui est en bois. Jamais, lors de son flirt de Toulon, le neveu de l'amiral Germinet n'avait pu obtenir qu'elle vînt à bord du cuirassé. Il avait dû louer pour lui offrir le thé, l'opium et la lecture de Tristan Corbière, un vieux brick abandonné nommé la Désolation. Aussi était-elle étonnée de voir sur l'eau tant de monde. C'était un bateau qui sentait exclusivement ce que ne sent pas un bateau, la violette, la rose, les fraises et le feu de Sarment. C'était un bateau sans barre de gouvernail. On l'avait démonté depuis le jour où elle avait balayé sans raison les 3 tables voisines. Mais il y avait parmi les clients quelques vrais voyageurs qu'on reconnaissait à ce qu'ils cherchaient instinctivement à descendre vers une cabine. Et surtout, on voyait 2 mouettes, après avoir accompagné jusqu'à une bouche d'égout, connue de tous les mouettes de la Manche, quelques saumons âgés qui remontaient, attendre devant la Chambre des députés quelques saumons jeunes qui descendit. Puis le soleil se coucha et elles disparurent vers le lieu où couchent les mouettes à Paris. En face, au quai d'Orsay, s'allumèrent les 2 fenêtres derrière lesquelles le chiffreur mettait sans repos en bouillie le télégramme pour Pékin qu'allait avaler dans une lettre le gros câble de mer. Les 5 étoiles du maréchal, peintes sur les assiettes et les menus, foisonnaient déjà au-dessus des têtes. Et du niveau de la Seine, on voyait les différentes montagnes de Paris reprendre leur vraie hauteur. Le Mont-Rouge, plus haut que le Mont-Parnasse, le Chaumont, moins haut que le Mont-Martre. Par le robinet de la cuisine, toujours grand ouvert, le lac du Mont-Souris se déversait avec murmure dans la Seine. Quand le nord-sud passait sous le fleuve, la péniche tremblait comme un immeuble, et l'on entendait ce bruit du cristal qui, au centre de l'océan Indien, annonce seul le typhon. Sous le souffle de la terre, la lune se couvrait de buée. Impossible de prétendre ce soir que la terre était morte. Oh, c'est de rouge, là d'où partent leurs paroles, de bleu, d'où partent leurs regards, le visage des femmes, selon l'angle qu'elles aiment à voir avec les rayons de la lune, s'inclinait ou se relevait. Pour en revenir à ces fameux bienfaits du soir, peut-être en effet n'était-ce pas M. Forrest de les dire, qui affirmait au steward suédois que les laitues à lui servies étaient arrosées au purin et non au porto, ni à Kurdonski, qui se refusait à manger sa fraise de veau stérilisée par l'appareil de Flon, ni à M. Rouff, aux prises à la fois avec un homard et un éternuement. Peut-être était-ce à moi. Et la lettre de Zelten me permettait d'expliquer les plagiats, SVK, par une hypothèse, hier encore inconcevable, et déjà j'avais obtenu du steward toutes les heures des rapides de Munich. J'étais décidé à partir aussitôt pour la vérifier, pour ne perdre aucune chance de retrouver mon ami forestier sans mémoire mais vivant. Jamais sur un navire être humain ne désira à ce point voir une gare. « Cher Jean, disait la lettre, la formule qui mentait l'autre jour a disparu ou a pris une autre forme. Elle est devenue maintenant « Je veux être roi de Bavière ». Voilà sur moi des indications suffisantes. En ce qui concerne SVK, son histoire est singulière. Il a été trouvé sur le champ de bataille au début de la guerre, nu et agonisant, et après 2 mois d'inconscience, s'est réveillé sans mémoire. Il a fallu lui apprendre à nouveau à manger, à boire, à parler allemand. C'est un major, chef de Stralsund, qui s'est chargé de tout cela. Et il a bien réussi que Schlegel avec l'Allemagne de 1800. Car SVK, qui produit peu, passe pour un des premiers dialecticiens d'Europe. C'est lui qui contrôle en ce moment la constitution de Weimar. Surveille bien s'il ne copie pas Forestier dans les annotations sur le régime du Danube et le statut des lacs. Geneviève était étonnée de mon silence, mais tous les convives, anglais et autres, émus après tout de sentir ce soir sous leurs pieds le centre du monde, plus mouvant et sensible en ce lieu qu'au Palais Royal ou à la Madeleine, étaient eux aussi plus silencieux que chez Larue ou chez Stéphane. On devait avoir dans quelques heures un nouveau président du Conseil. Les Français, amis de la liberté, souhaitaient, en buvant leur fine, un tyran qui leur obéit, à part 2 ou 3 qui souhaitaient un doux roi qui leur commanda. J'avais conduit Geneviève dans le cabinet particulier orné de gravures de Dalila, de Judith et de Ninon de l'Enclos. Je ne savais pas que Ninon eût fait elle aussi tant de mal aux hommes. La présence de Geneviève suffisait d'ailleurs à rassurer. Elle était là, menue et faible, devant son apéritif quotidien, qui lui donnait chaque soir le courage de résister à la vie, et admirant le premier maître d'hôtel, comme elle eût fait Jurin de la Gavière. Je ne l'avais pas vu depuis 10 ans, époque où sa sculpture ne l'avait pas rendue célèbre, et où tous les 3 mois elle se fiançait. Le fiancé, selon qu'il était professeur ou ingénieur, se mettait aussitôt à déplacer dans l'appartement de la fiancée les livres ou les ampoules, apportant une pile de nouveaux poètes ou illuminant à la lumière bleue le poisson rouge, selon qu'il disposait d'un tramway, d'un taxi ou d'une auto, lui révélant Bois-Colombes, Marly ou Chartres. Et il disparaissait un beau jour, sans que je n'y avais jamais su pourquoi. comme si son rôle dans l'existence avait été uniquement de lui révéler les dadas ou le plomb vierge que respectent les courts-circuits. Les écrivains, admis de Geneviève, ne se croyaient même plus tenus de dédicacer leurs œuvres aux fiancés en cours. Elle, dont le visage se modelait de façon inlassable, ne répandait aucune plainte et se contentait de ressembler qu'un jour au disparu. Nous l'adorions, car elle était une de ses forces ou de ses faiblesses naturelles que le monde ne produit qu'à contre-cœur, et dont la civilisation se venge en les accablant de toutes les médiocres disgrâces qu'elle garde en sa panoplie. Car Geneviève était fille et mère adultérine, divorcée, défroquée, et pas mal d'autres choses encore. Elle se défendait contre la société par des phrases d'enfant qui causaient de la honte à tous ceux qui se croyaient en règle avec leur petite conscience. « Je suis enfant adultérine, mais mon père était sénateur. J'ai quitté le couvent directement pour l'atelier Quentin. Mais je ne crois en Dieu que l'été. Bon, je suis divorcée, mais je continue à vivre avec mon mari. J'ai été allemande pendant la guerre, mais je suis revenue deux fois en France par l'aéroplane pour accoucher de petits enfants morts. Pas ces jours de fierté, seul jour qu'elle eut, elle nous parlait à toute occasion d'une cousine de Montbéliard qui, elle, était en règle avec tous les prêtres et hôtels de ville, qui était légitime, baptisée, mariée à l'église, et qui enfantait de petits enfants vivants. Mais d'une beauté extrême, surtout les jours où elle ressemblait à un fiancé non humain, à l'esclave de Vinci, à l'ange de Modigliani, ayant non seulement les trois sillons du ventre, les traits et le buste parfaits d'après le combat des beaux-arts, que de fois nous l'avons mesuré, mais pesant, quoique toujours mourante, le poids de la santé absolue sur les bascules du métro, traversée sans qu'elle leur offrît la moindre résistance par les gros atomes qui déterminent les actes de ses contemporains, nationalité, coutume, snobisme, mais barrage absolu pour les impondérables, incapable de pressentir aucun événement, épousant un Bavarois le 29 juillet 1914, comme elle n'aurait pas manqué d'épouser un Anglais, la veille du supplice de Jeanne d'Arc, mais prévoyant tout ce qui ne dépend que des éléments et de l'âme, annonçant les sécheresses, les inondations. Le contraire, en somme, de Venizelos, qui donnait en août 1914 la date où le Guatemala entrerait dans la guerre. Mais à la vue d'une marchande des quatre saisons, d'une concierge, devinant avec ses regards X ce que cette forme vulgaire avait accompli dans la vie en générosité, en sauvetage ou en suicide, et lui faisant avouer par des brusqueries et des menaces comme à celui qui vous a avalé un louis, n'ayant au monde qu'un désir, ne pas habiter seul. Et puisque les gens avec qui l'on habite de naissance manquaient autour d'elle, puisqu'elle n'avait père, mère, frère ni sœur, elle avait donc dû se contenter d'élogies de fête ou de hasard, ceux des peintres russes, des banquiers ou des actrices du français, s'en libérant d'ailleurs aussitôt dès qu'on lui avait signalé l'existence de quelques cousines en province. « Adieu, Emilio, adieu, Somoff, vie, je vais habiter au jour avec une parente à Montreux. » À cause de sa fragilité, on la disait frivole. On disait qu'elle aimait les tigres, qu'elle aimait les brins. Calomnie. Moi-même, j'avais habité avec elle, près de Rouen-Saint-Morin, chez Renaud, à l'enseigne « Au bon vin, pas d'enseigne », où elle travaillait seule à sa sculpture. Car elle différait en cela des autres sculpteurs, qui ne se précipitent que là où ils sont sûrs de trouver un contingent de leurs collègues. Les sculpteurs s'attirant à la campagne comme les statues à la ville, Et comme si le but suprême de la sculpture était de donner au monde les bustes des sculpteurs. Elle préférait simplement les villégiatures humides à cause de sa glaise et rentrait de vacances gravée d'écrevisses ou percluse de douleur. Elle parlait sans liaison, sans adjectif, attribuant toujours l'affirmation qu'elle croyait importante sur le beau temps, par exemple, ou la nécessité des armées permanentes, par modestie, à un corps de métier voisin du sien, médaillé ou graveur sur bois. Le Figaro lui accordait le plus grand talent après Rodin, mais elle, ce qui l'amusait le plus dans les bustes, c'était de percer les yeux à l'épingle à tricoter. Les feuillets lui accordaient le plus grand génie après les barcas. Mais ce qu'elle préférait dans les statues en pied, c'était de faire les boutons des vêtements. Redon, Monin, Renoir, Debussy avaient posé pour elle. Elle était la seule à imaginer l'impression des 10 doigts du Démiurge. Si le premier jour du monde il avait pétri au lieu d'Adam tous les peintres et musiciens de 1912 à 1919. Mais ce qu'elle préférait, c'était modeler de grand nez au coupe-papier. Et comme elle savait, semblable à la plupart des Français, reconnaître les Israélites, elle était stupéfaite le jour de ses expositions de ne voir sur son catalogue que les Bernheim, les Bloch-Levallois et tous les Waldos-Heimann. Parfois, des gens qui venaient la réveiller la nuit, comme on réveille un médecin en province, des gens qui allaient le lendemain prendre des vêtements de deuil et n'avaient déjà plus de gants ni de chapeau, et c'était pour l'emmener mouler la tête d'un mort célèbre. Elle se levait sans mot dire, prenait son baquet, son rouleau à plâtre et suivait en cuisinière de Pluton. Elle détestait d'ailleurs perdre ses compagnons, même animaux, et quand elle avait à choisir entre un chien, un chat ou des oiseaux, elle allait voir le directeur du muséum, car elle adorait voir le directeur de chaque administration, de chaque monument, parler au contrôleur, au directeur du tramway, et adopter celui dont la race vit le plus vieux. Elle se proposait aujourd'hui d'acheter un jeune cheval, car elle était à l'âge. Les poneys de Zetland vivent tenter un an, où le cheval risquait de lui survivre. Dans cette atmosphère d'eau de Seine où elle se sentait par habitude inspirée, elle me racontait pourquoi elle avait épousé Zelten. Mais avant Zelten, j'avais eu des amis, mais qui alternaient tous dans cet ordre. Un homme mûr, un tout jeune homme, un homme mûr, un tout jeune homme. Jamais un homme de mon âge. Tous les 18 mois, j'étais assuré de regagner la barbe blanche des collectionneurs d'Outamaro et de Van Goyen, pour retomber au bout de 18 mois à l'extrême jeunesse et aider mon ami à préparer son bachot. J'avais à changer de mode de locomotion et de démarche, de jeux d'argent, de bibelots, de bien d'autres choses aussi, et de langage. À la rigueur, j'acceptais d'abandonner le poker et de jouer la barre. Les pyjamas pour les chlamydes, de compter par 1000 francs au lieu de compter par écu. Mais c'était justement ce qui semble appartenir à tous les âges et leur être commun, qui me donnait à moi l'impression d'être collé à mes années et à mes générations. La mer, la montagne, les buissons en allant à Deauville. Bref, comme disait Portier d'art, la nature. C'était les ruisseaux, les forêts. C'était, comme disait Graveur sur bois, les Cévennes. Quand les hommes mûrs me parlaient de la pluie ou du beau temps, cela agissait sur moi comme s'ils me parlaient d'une vieille pluie, d'un vieux beau temps. Et quand les jeunes me parlaient de la tempête, j'avais l'impression de bébé typhon, d'enfant cyclone. Quelquefois nous nous baignions, Bien que tout nu, comme disent les ferronniers, dans mon beau paysage à moi, les vieux m'apparaissaient comme des nus de Rochegrosse et les tout jeunes de Matisse. Aucun de mes amants n'avait le nu de mes peintres. Ah, vous pensez de quel cœur j'ai décidé d'habiter avec Zelten. Il était né le même jour que moi. Nous n'avions aucun anniversaire à nous deux. Il m'a suffi de le voir sans vêtements pour deviner que tous les grands événements qui éprouvent l'enfance, la mort de Bismarck, la mort de Jules Ferry, la visite à Tanger, Dreyfus et l'exposition des Munichois, nous les avions ressentis au même jour de notre vie. Je crois seulement qu'il était du matin, moi du soir. Mais tous ces mots, être, soleil, topinambour, trèfle incarnat, qui me causaient avec les autres une malaise terrible, je les sentais calmer en moi auprès de lui. Il ne s'est jamais douté de tout cela, ni pourquoi, à la campagne, je m'amusais à fermer les yeux, à lui faire décrire champ par champ le paysage. Vous aussi, d'ailleurs, ne devez pas être si loin de mon année. J'ai reconnu cela tout à l'heure, quand vous avez parlé de la nuit, comme disent les graveurs en couleur. C'est ainsi que tout s'ingéniait, même Geneviève, à me désigner pour dire ce soir les bienfaits de la nuit. L'espoir incroyable que m'avait apporté la lettre de Zelten m'y poussait aussi. Sur l'autre quai, le tramway numéro 14 faisait la chasse éternelle au tramway numéro 20. La tour Eiffel, juste de notre âge aussi. Il y avait une semaine, nous avions eu la même taille qu'elle. Toute sa masse, mobilisée par la pointe en platine du paratonnerre, hissait par l'ascenseur en lumière un berne pour la nuit. Ces deux vies que nous avions eues, ces centaines d'amis, tués ou morts, ces maladies, cette otite, cette névrite et cette sinusite, ces souffrances pour mettre au jour de petits yeux éteints, ces brouilles avec notre concierge, par la vertu de nos deux verres de marc, nous étions tout prêts à les reprendre. La lune avait tourné et nous montrait toutes ces montagnes en ordre, elles aussi, et sans palpitation. Le mont Argent moins haut que le mont Radium, le mont Platine égal au mont Wilson, la petite étoile qui se nourrit de ces vermines voltant sur son côté droit. Nous la contemplions. C'était bien celle dans notre livre d'enfant, le même aussi pour Geneviève et pour moi, tout en avouant qu'elle faisait figure dans le ciel, révélait dédaigneusement qu'elle n'était pas grand-chose auprès des autres astres et qu'une simple diligence pouvait y parvenir en 3 ans, 15 jours. Oui, forestier, c'est à moi de décrire les derniers 11 jours, alors qu'on approche d'elle en mettant ses gants pour enfin la toucher, ses lunettes noires pour n'en être pas ébloui, et l'amour de celle qui abandonna la terre pour vous accompagner dans la diligence déjà changée en amitié. Mais voici que le tramway numéro 20 continue sa route, hélas horizontale, sans se douter que le 14 le poursuit en brûlant l'arrêt facultatif. À chacun son métier. Moi, qui suis écrivain, quand je pense à un ami, j'écris sans le vouloir avec son écriture. Pour Geneviève, le sculpteur, qui me perd de ses regards, qui a déjà deviné qu'un jour j'ai sauvé 3 chats, qui va deviner dans une minute qu'un jour j'ai sauvé un enfant, voilà que son visage commence à me ressembler. Le steward suédois nous a mis à la porte et lâché vers l'obélisque. Dire les bienfaits de la nuit, c'est au premier qui dira au premier sergent de ville: la lune est levée, sergent de ville, on voit 1000 étoiles. C'est à moi. Le 21 mars 1922, à minuit, exact comme le printemps, mais de meilleure humeur, je débarquai à Landshut. Shelton avait dépêché à la gare un docteur Müller, professeur dans cette ville de diction française, et au métier duquel la guerre avait porté un coup, car s'il avait toujours quelques élèves, à mesure que les parents voyaient s'éloigner la réconciliation franco-allemande, et le jour où l'on redonnerait à la distribution des prix de l'Hallstatt le solo de flûte où Horace immole en Camille, on lui amenait les futurs progrès de Nice de plus en plus jeunes, et aucun, ce mois-ci, n'avait plus de 6 ans. Il avait gelé, et le sol de la Bavière sonnait demi-creux. C'était la première fois depuis la guerre que je revenais en Allemagne. Elle était reconnaissable, mais il avait dû s'y produire un changement que tout mon être subissait, sans que je pusse remarquer cependant autre chose que le ciel plus noir à minuit, les étoiles plus fixes, et le poids du gel à 1 degré plus élevé. Müller m'entraînait dans un restaurant pour m'y passer les consignes de Shelton. Les maisons centenaires des corporations, repeintes de la vieille, séchaient et dormaient sous une lumière, comme les maisons et les villes ne savent dormir que si elles ont été sous la menace des avions. Müller, qui professait aussi l'histoire de l'art, essayait de m'indiquer ou de me faire toucher, quand la hauteur le permettait, en flambant des allumettes, la part respective des artistes bavarois et italiens dans les façades de la résidence et dans le clocher Saint-Martin, haut de 133 mètres, et dont il déplorait que l'allumette ne permît pas de voir, juste sous la croix du paratonnerre, un motif sicilien pur. L'isard gémissait, bordé de 2 isards de glace. L'odeur des hôtelleries aussi avait changé. La bière était d'un degré plus faible ou plus forte, les quenelles et le civet d'un jour plus macérés. Müller me garda au chaud plusieurs heures. On craignait à Munich un mouvement anarchiste. Des automitrailleuses patrouillaient sur les grandes routes. Et j'ai reçu de la part de Shelton un faux passeport qui me donnait le nom de Chapdelaine et me baptisait Canadien. L'hôtelier, méfiant, ne quittait pas la salle, pour le désespoir de mon hôte, qui avait projeté de me réciter les principales tirades du répertoire français, car il craignait que son accent ne se fût corrompu. À peine s'il eut le temps, pendant que l'autre ouvrait sa devanture, de me murmurer, touchant un vœu à la France, les stances de Jules Truffier sur les mitaines. Mais soudain, du haut des 133 mètres, entre ses anges berlinois, de son marteau nurembergeois, la demi-convenue sonnait. Il fallut sortir avec précaution de la ville et éviter de se frotter au monument non sec par un chemin de jardin palissé où foisonnait sous la neige le radis noir et qui contournait les pigeonniers tourelles d'où s'échappait justement le premier pignon, car le soleil allait paraître. Bientôt tout le ciel fut doré, y compris la dernière étoile. 7 heures sonnait à l'horloge de Trausnitz, purement allemande celle-là, à part la petite aiguille suédoise, et d'où les poupées par cette aube devaient sortir piteusement. Salomon, du givre à la main levée, et Goliath, le verglas au nez. Quand nous arrivâmes, un tertre planté de 4 chênes au carrefour de la chaussée de Freising. 2 percherons de ferme gris pommelé, de ceux que chevauchent les timbaliers de Charles Quint, nous attendaient, retenus aux arbres par un nœud marin. C'était une imprudence, comme le remarqua Müller, car c'est grâce à des nœuds semblables que l'on reconnaissait et arrêtait, durant la Révolution, les matelots, alors tous communistes. À cette place où il avait été tant pendu durant la guerre de 30 ans, quelques milans et des corbeaux voletaient ou tournoyaient, confondant sur nous l'odeur du sommeil avec l'odeur de la mort. Un jeune homme, en manteau de peau de chien, que masquait un des chevaux, nous salua du gant, m'indiqua ma monture, enfourcha la sienne, et Boiler me dit adieu d'une phrase lamoyante qu'on sentait pousser en lui par 2 ou 3 000 vers de Corneille et de Botterel. Rien de trop morne ni de trop désespéré dans l'aube. Elle était luisante et correcte, comme une aube d'Albert Dürer. Elle nous était bienvenue, comme à ceux qui n'ont pas dormi, comme aux pirates et aux mercenaires, comme aux honnêtes gens la nuit. Sur ces plateaux et ces pentes verglacées, le vent, le soleil nouveau, l'étoile du matin, tout ce qui semble pourtant un bien commun au monde entier, sentait la soie et la franconie à plein nez. Pas un lapin, pas un lièvre, pas un genièvre et un noyer avec une griffe dans l'angle, comme une signature, pas un ruisseau gelé et sillonné d'une rigole à ton Walweg, pas une croix que je ne connusse déjà par le Petit ou le Grand Testament. J'étais dans ce temps épique du Saint-Empire qui continue à vivre en Allemagne le matin, alors que l'époque romantique n'y reparaît que vers midi, et au crépuscule, et dans les environs des villes, celle du Sturm und Drang. Je prenais dans l'air le plus frais ce bain de Moyen-Âge que donne la Bavière à son réveil, quand ne sortent encore que les êtres et les animaux qui n'ont pas changé depuis Wallenstein, les belettes, les vers, les courriers, à cheval dont les corps éveillent trop subitement les gardiens de beffroi, étendus par bonheur aux pieds et non aux fêtes, et les chambrières qui en trouvent un volet doucement et de l'épaule, car il faut empêcher l'autre sein de paraître et le pot de verveine de tomber. Une alouette, un coq, mais la seule alouette et le seul coq dont on puisse affirmer, à je ne sais quoi dans leurs cris et leurs plumages, qui ne personnifiaient en rien ni la Gaule ni la France. Un paysage vu tant de centaines de fois, monticule par monticule, dans le Dorfer ou Wolfgemuth, qu'on s'attend à apercevoir soudain dans l'air, comme dans leurs dessins et leurs gravures, un gros petit enfant tout nu, ou des mains seules, brillant, ou des gibets célestes. J'étais non dans un pays, mais dans une aube de conjuration, de pillage, et qui s'obstinait à ne rien révéler de l'Allemagne moderne. Parfois apparaissait, loin sur la droite ou loin sur la gauche, le clocher d'un bourg où la route finissait toujours par nous mener. Le plus matinal des enfants patinait sur la plus petite des mares. La buse, un trou dans l'air glacé, chavirait soudain de 10 mètres. Des bandes de corbeaux, séparées par la chaussée, déléguaient en son milieu les corbeaux héroïques qui se battaient jusqu'au sang et ne s'envolaient pas sous notre cavalcade. Nos chevaux avaient des gerbes droites de fumée aux naseaux, des étincelles à chaque sabot, des éclats d'or au poitrail. C'était juste le paysage où ont eu lieu, grâce aux peintres, le plus de naissances de l'enfant Jésus et le moins de repentir de Madeleine, le plus de massacres des innocents et le moins de noces de Cana, le plus de danses macabres et le moins d'Adonis mourant, où aussitôt, dans les tableaux, reconnaissait le père Eilet, peintre de décors pour pièces tyroliennes, qui venait parfois dessiner le cygne dont nous étions escortés dans notre cycle. Sa fille nue détournait à sa vue la tête, surprise sous le journal, non par pudeur, mais parce qu'il avait la manie, chaque fois qu'il pouvait la saisir ou saisir celle de ses sœurs, d'appuyer à la fois sur leur manteau et leur nez, comme on le fait au bec des pigeons pour voir s'ils ont volé. Les trois sœurs avaient volé, depuis, chacune happée par chaque colonie allemande de l'étranger. L'aînée mariée à Rio, Elsa à Milwaukee, Freddy à Tieste. Le père n'avait plus à presser l'une contre l'autre que le menton et le nez de la mère, et chaque lettre de chacune de ses filles inséparables arrivait avec un timbre de continent différent. Ida, me reconnaît, racontait tous ses départs, et parfois de ses mots ébranlait en moi tout un ordre de souvenirs qui jamais ne résut la moindre chance de l'abîme où il était tombé et de remonter à la surface, tel que les historiens, des histoires de casseroles à bombes de la mer et de la vis à trous que le père imposait aux machinistes. Vous rappelez-vous, me disait Ida, le jour où vous étiez souffleur à la vente de charité de la baronne de Buchenstedenbach? Oui, pourquoi, en effet, avais-je oublié aussi la baronne, fille de Baedeker et célèbre pour sa taille de 7 pieds? Comment avais-je pu oublier celle dont la grande idée était le Baedeker sentimental, destiné aux jeunes mariés et aux poètes? Gare, musée, hôtel, tout y était décrit en fonction des gens qui vont avoir leur nuit de noces ou en sortent exactement. Les plans et cartes en étaient semés de croix qui marquaient la ville fatale des héros suicidés ou meurtris ou meurtries ou éternellement malades. Werther, Adolphe et dans la nouvelle édition d'Anna Karénine et de Paphnus. Il se trouvait, à l'étonnement de tous, malgré le peu de romantisme de ma race, que la majorité de ces croix était française. Nous savions par cœur les plus belles phrases du guide. Quelle que soit la distraction qu'engendre l'amour, il convient de lever les yeux en entrant dans le Colisée. Ou au chapitre Paris, mon mari m'a toujours répété qu'il y a eu dans sa vie deux souvenirs impérissables, son mariage et sa campagne de 1870. Aussi la baronne était-elle dévouée à tout ce qu'elle sentait français, comme si c'était le fruit ou la cause de son mariage même. M'appelant Sönchen ou Waterchen selon son humeur et m'encourageant à trouver désirable la princesse Ottilie, dans l'espoir que, par l'effet d'un amour aussi illustre, après avoir planté un jour sur ma tombe une croix, l'éditeur du Baedeker sentimental se sentirait autorisé à en dessiner sur sa carte la flatteuse projection. « Tirer les pieds d'un souffleur, disait Ida, c'est chose plutôt rare. Le jour pourtant où vous souffriez, Angèle, au moment où la femme du fils prend le père, on entendit un grand cri sous la scène qui sembla saisir pour la première fois l'indécence des pièces de Hartleben et qui poussa son appel. C'était que je vous avais tiré par les pieds, je l'avoue aujourd'hui. Ainsi se révèle dans votre vie après 30 ans et dans le fond d'une province étrangère ce pourquoi la vitre du coin à la fenêtre de votre grand-mère se brisait les jours de foire, ou pourquoi, pendant 3 mois et tous les dimanches, votre voisine de palier frappait une boîte à cigares avec un marteau. Je ne désespère pas de voir se résoudre un jour en Océanie ou à Mexico quelques autres énigmes de mon passé. Un nœud finit toujours par se défaire du simple dégoût d'être un nœud. La seule d'ailleurs qui me préoccupe vraiment est l'énigme Torinelli. Cet ambassadeur en exercice, que je voyais pour la première fois à la distribution des prix du concours général, me fit signe d'aller à lui et me glissa dans la main un œuf dur. Ida, qui avait mis pied à terre pour se réchauffer et courir, au lieu de remonter sur son cheval, avait sauté derrière moi à califourchon et m'expliquait bourg, château et colonie d'artistes avec des bras qui semblaient être les miens. Elle avait seulement le tort de revenir de Mecklembourg et de comparer à son correspondant mecklembourgeois chaque paysage et chaque objet de la Bavière. Au Mecklembourg, les châteaux sont imités non de Versailles, mais de Chambord. Au Mecklembourg, au lieu de peindre, comme ici, les façades des maisons, ils peignent de blanc les rochers, les bordes jusqu'aux grosses pierres. Quand vous rencontrez une pierre grise, c'est qu'elle n'est sortie du sol mecklembourgeois que de la veille. Il était midi à l'horloge de Freising, 11h50 à la chapelle du Saint-Saëns de Schwerin, Et, de même que jadis avec sa sœur Elsa, j'achevais dans le bain allemand moderne, parmi les marbres de nickel, le périple aquatique, à cette nouvelle température, nous arrivions d'ailleurs à peu près enjambés que l'époque goethéenne à l'Allemagne de 1914. Chassés par les comités de protection des sites numéro 1 à numéro 13, elles s'entassaient dans les sites 14 à 20, ceux qui sont à l'écart des rivières et des forêts. Puisque l'eau, le chauffage et la lumière se trouvent maintenant à tous endroits, sur chaque surface stérile, entre pinèdes et bruyères, s'amassaient des faubourgs, sans ville, des cheminées éloignées, d'après le nouveau système de leur usine, et réunis à 20 en palmeraies, auprès de chaque étang, un établissement avec flux et reflux artificiels. Parallèles à la route et fonctionnant à l'air, des courroies de transmission qui reliaient deux pignons dans deux bâtiments séparés de 20 décamètres. Sur les vêtements de tout ce nouveau peuple, quelle qu'en fût la couleur, cette bourre qu'on trouve sur la robe des jeunes louveteaux et des oursons. Mais surtout, à chaque interstice libre entre deux rues, sur chaque façade, sur les tréteaux autour des marchés de poissons, combles de bêtes que les autres pays dissimulent dans les conserves, crabes, pieuvres, calmars et poissons-tigres, l'alphabet de la nouvelle race, les affiches, affiches pour les aliments, tous pourvus de noms chimiques, comme si l'Allemand ne connaissait plus la nourriture animale et végétale, les gotons, qu'il faut faire bouillir 2 heures, l'igiopo, préférable rôti, le radio pour les salades et les cadres de même, décrivait Cakes. Affiche pour la beauté, aussi fréquente et plus large que la publicité chez nous des sardines, à mieux, et presque toute consacrée entre Freisig et Bunist à l'embellissement du nez. On oublie ta forme de nez, disait l'écriteau, qui en France, au nom de Michelin, vous prie d'épargner les enfants. Les nez rouges sont guéris par l'équia, les nez ronfleurs à oies soufflées par l'équiole, les membranes du nez sont raffermies par l'hygiéna. On eût dit le catéchisme d'une nation vouée à la cocaïne. Les mots empruntés à l'étranger devenaient subitement exsangues. Bureau devenait bureau. Les chairs minuscules étaient congelées en une seule majuscule. Le thé devenait la lettre T. Le café KF. Tous les dieux et les déesses qui président au pamorphisme, grandeur nature, Cybèle, Pan et Orphée, étaient les seuls garants autorisés par le blanchisseur et les recettes à l'impuissance. Notre chasseur de chez Maxims, notre vagabond à talons de caoutchouc, était remplacé par Thésée nu, par Apollonios de Tyane. De sorte que, bien avant d'avoir rejoint l'auto qui nous attendait à Schlesheim et nous débarqua à Nymphenburg, dans la rue de Siegfried Kleist, j'avais déjà l'impression d'une race qui surpassait de loin toutes les autres dans l'art de digérer les métaux, d'avoir le sang en alcool, de se nourrir d'équivalents solides de l'oxygène et occupée par le mélange d'agents chimiques à créer, c'était toujours un moyen d'imiter Goethe, des homoncules vivants. « Nous y sommes, » dit Ida, « voici sa villa. » Dans 10 minutes, il va sortir pour fermer les volets. Son bureau, d'ailleurs, donne sur la rue. Tenez, voyez cette ombre. Il appartenait bien à l'Allemagne, et au lieu de me le faire voir lui-même, de me montrer d'abord le spectre de Vaseska. Derrière le store baissé en drape de cinéma, je voyais seulement une ombre se rapetisser à la taille d'un nain, s'agrandir à celle d'un géant, s'orner de nombreux bras ou ne plus laisser sur la table qu'un cercle gris et mouvant comme on nomme le microscope. On eût dit la projection d'une de ces batailles acharnées entre globules vivifiants et globules de mort. On eût dit la fusion d'un métal, la destruction d'un tissu. Du moindre mouvement de SVK, le spectre allemand prenait prétexte pour me dérouter, tripler sa tête, limier son nez, ou ne plus faire de lui qu'une main immense. Triste opération d'avoir à reconnaître ses amis au rayon X. Ma peine se doublait de surprendre à chaque minute, lié à SVK par des fils médiocres, mais incassables, l'Allemagne complète. Le facteur passa et jeta des journaux à bande dans une boîte sur laquelle était gravé le nom. On entendit son téléphone sonner. Il avait planté le jeune tilleul, il avait préparé un mur pour les tomates ou la clématite. Savoir SVK noué à l'Allemagne par des abonnements de 6 mois, des contrats de 6 ans, des tilleuls qui demandaient encore 10 années, des tomates qui réclamaient le recours de l'été, du jasmin, plante qui enlace, m'attristait autant que de le savoir dans une vraie prison. Des pigeons bavarois venaient à travers les flocons se coller à sa cheminée, presque à sa chaleur. Des moineaux criaient derrière les volets. SVK était lié à l'Allemagne par ses animaux. Une servante rentra avec une cruche de bière et des bretzel. SVK était lié à l'Allemagne par le sens du goût. Soudain, l'écran devint blanc de neige. SVK allait sortir. « Le voilà !» dit Ida. « Approchons de la porte !» Elle me poussa, car je manquais de courage. J'aurais presque souhaité voir sortir le géant lui-même, le nain, l'homme à 10 bras, la main unique. La porte s'était ouverte par une double glissière. SVK était lié à l'Allemagne par le système des portes et des fenêtres. Et, précédé de la fameuse ombre, je vis un homme regarder le couple inconnu qu'Ida et moi nous formions. Je vis un être orné de toutes les appendices que confère l'Allemagne quand on y plonge. Un visage embelli de 2 lunettes de fausse écaille, d'une dent en or, d'une barbe allemande coupée en pointe. Je vis forestier.